bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour explorer plus en profondeur le féminisme. Nous savons que de nombreuses Africaines étaient activistes des droits des femmes bien avant la naissance du féminisme dit institutionnel des années 60. Toutes se réclamaient panafricaines et bien que précurseurs, elles ont été exclues de la vie politique. Selon la chercheuse Rama Saladieng, féministes et panafricanisme sont souvent étroitement liés et le féminisme est aussi ancien que le continent. Alors les questions qui ont été posées notamment à nos auditeurs et auditrices, connaissez-vous des grandes personnalités féministes panafricaines, hein, plusieurs d'entre vous vont en citer tout à l'heure. Le féminisme contemporain est-il différent des mouvements antérieurs? C'est un petit peu les questions qu'on vous a posées également. Nous avons justement en ligne à partir d'Édimbourg en Écosse, Dr Rama Saladieng, écrivaine, politologue et féministe. Rama, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir Nathalie, merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors pourriez-vous nous dire pour commencer un mot sur votre livre hein, qui est sorti assez récemment, il s'appelle Gagner le monde, votre dernier livre sur le féminisme publié donc en 2023, coécrit avec d'autres activistes que vous pouvez d'ailleurs citer brièvement.
Merci beaucoup. Alors Gagner le monde est un ouvrage collectif qui a été publié en novembre 2023 aux éditions La Fabrique à Paris, et qui compte plusieurs contributrices du Mexique, de l'Argentine, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Irak, donc de pays considérés comme la marge ou la périphérie, si on peut dire. Le point commun entre nous toutes, c'est qu'on essaie de penser et de théoriser le féminisme depuis hors l'Occident, en fait. Hors les canons qu'on nous a inculqués jusqu'à présent, pour voir comment nos contextes spécifiques pouvaient nourrir et informer notre propre définition et vision du féminisme. Et c'est la raison pour laquelle ce recueil évoque des luttes, des figures qui ont compté pour nous et qui s'arment d'un héritage internationaliste fécond. Donc on pense que c'est dans le féminisme transnational qui vise à embrasser les spécificités de chaque féministe culturel, politique, idéologique, que le féminisme s'enrichira au lieu d'essayer de les gommer et de vraiment parler d'un féminisme, d'un seul féminisme occidental. Et c'est la raison d'ailleurs qu'on parle de féminisme au pluriel plutôt qu'au singulier.
Ouais, donc voilà, c'était effectivement la question suivante qui vous aurait été posée, votre recueil Féminisme africain, ça c'est un autre livre, donc, et c'est bien au pluriel, vous avez écrit Féminisme africain au pluriel, une histoire décoloniale qui est sortie en 2021, celui-ci laisse parler une vingtaine de féministes, alors qu'avez-vous voulu faire ressortir à travers ces entretiens, brièvement?
Alors, au travers de ces entretiens, il s'est agi de faire une historiographie des féminismes africains et de la diaspora africaine en laissant parler, s'exprimer les féministes et activistes et universitaires féministes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a souvent, nous, universitaires, tendance à théoriser le féminisme comme si on avait la science infuse depuis les théories qu'on aurait apprises, depuis la première vague, la deuxième vague, comme on nous l'a inculqué. Alors là, il s'agissait de parler aux activistes elles-mêmes qui sont sur le terrain, qui sont dans les institutions et organisations féministes et féminines du continent et de la diaspora, et pour savoir qu'est-ce qui nourrit leur féminisme, quels sont leurs rêves féministes, quelles sont leurs joies féministes, quels sont leurs idéaux féministes. Et pourquoi le concept de sororité qui fédère autant ces militantes est important? De la même manière, quelle place elle donne au care, le soin de soi, la sororité, et voilà, dans leur lutte contre la violence basée sur le genre.
Alors, donc, oui, alors docteur Rama Saladieng, restez avec nous, je voudrais qu'on écoute une grande dame à présent. Si je devais citer une grande féministe, ce serait elle, c'est Makale Camara, ancienne ministre, ancienne diplomate, c'est la présidente de la Guinée en politique.
Jeanne Martin Cissé, première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1972, est une femme inspirante. En 1974, d'ailleurs, elle fut élue présidente du comité spécial contre l'apartheid. À ce titre, elle a parcouru le monde pour soutenir l'ANC. Femme politique, femme diplomate, elle a participé à la création de l'Organisation panafricaine des femmes en Tanzanie, à Dar es Salaam, en 1962. Elle a écrit son livre en 2008, La fille du Milo. J'étais encore ambassadeur en France quand elle est venue lancer ce livre. Je l'ai soutenue, je l'ai assistée là. Cette grande dame, née à Cancan, une préfecture de la Guinée, où elle a réussi son concours pour entrer à Rufisque comme enseignante, déjà là, elle a rencontré des Africaines. Je crois que son panafricanisme est né de cette diversité de cultures dont elle a profité.
Voilà, c'était Makalé Camara, présidente de la Guinée en politique, hein, qui a voulu citer donc une grande féministe. Alors, docteur Rama Saladieng, pourquoi féminisme et panafricanisme sont étroitement liés depuis quand? En d'autres termes, quel est ce lien entre les deux?
Alors, comme vous avez bien fait de passer l'extrait avec Madame Makalé Camara, parce que ce qu'elle rappelle est important. Madame Jeanne Martin Cissé fut l'une des artisanes de la création de l'Organisation panafricaine des femmes, la PAO, ou la PANAF, comme on l'appelle communément. Donc, qui a été créée en 62, le 31 juillet plus précisément, en Tanzanie. Et donc, Jeanne Martin Cissé, avec d'autres, hein, comme Madame Annette Baider-Neuville et d'autres qui étaient rassemblés au sein d'un magazine qui s'appelle AWA, qui était publié à partir de Dakar, mais qui était lu à travers tout le continent, dans le monde francophone, en Afrique et dans la diaspora, fédérer toutes les voix. Et donc, c'est par la suite, à cause de cette conférence qui s'est tenue en 62, avec la présence de délégations de 21 États africains, donc on parle déjà de panafricanisme, on parle déjà de transnationalisme, d'organisation politique transnationale, ces femmes avaient compris que quelles que soient les questions idéologiques, de race, de croyances, de différences politiques, les femmes du monde et les femmes africaines surtout devaient s'unir. Et c'est cette définition du panafricanisme qui nourrira plus tard, une année plus tard, la création de l'organisation de l'unité africaine. Donc, il est vraiment malheureux que lorsqu'on parle du panafricanisme en Afrique, moi je parle de man-africanisme, donc du panafricanisme mal, parce qu'on a vite fait d'oublier le rôle crucial que les femmes africaines ont déjà joué par cette organisation transnationale. Et donc, quel héritage avons-nous de cette journée cruciale du 31 juillet 1962 ? Actuellement, chaque 31 juillet, nous célébrons la journée de la femme africaine. Chaque 31 juillet, en Afrique et dans la diaspora, la journée de la femme africaine est célébrée et je peux dire que cela est un héritage panafricain du féminisme. Et donc, lorsqu'on sépare les deux, en fait, je pense qu'on devrait plutôt les lire ensemble et les penser ensemble.
Merci beaucoup, docteur Rama Saladieng. On écoute un auditeur de VO Afrique, c'est Jean-Eudes, il est à Lomé.
Bonsoir VO Afrique, bonsoir chers auditeurs. Avant la naissance du féminisme, il y a eu des activistes des droits des femmes. Bien sûr qu'il y en a eu, mais leurs voix n'ont pas porté parce que la femme dans la culture africaine, la femme n'avait pas une voix en tant que telle. La femme n'avait pas une place importante dans la société, donc il n'y avait pas cette initiative de valoriser la femme dans la culture africaine. Si nous allons nous en tenir aux événements du passé, ou même au temps de la colonisation, il y a eu des Amazones. Il y a eu des Amazones au Bénin qui ont battu des colons, mais même dans l'histoire à l'école, on ne nous parle jamais de ces Amazones-là. Il y a eu des femmes qui ont combattu, qui ont lutté, il y a eu des reines, il y a eu des reines qui ont formé des armées, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas, parce que la femme a été très négligée dans la culture africaine. Tous ceux qui ont combattu, tous ceux qui ont lutté, tous les activistes des droits des femmes ont été ignorés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ignore presque totalement les activistes des droits des femmes à l'époque, mais il y en a eu quand même. Personnellement, je ne peux pas en citer parce que même à l'école, on ne peut pas en parler, mais le sujet me plaît quand même et j'ai vraiment ce désir de découvrir cet événement du passé. Jean-Eudes Lomé, Togo.
Docteur Rama Saladieng, pour rejoindre un petit peu le propos de notre auditeur, hein, qui dit féminisme, dit lutte contre le patriarcat. Est-ce que le matriarcat est toujours actif en Afrique, ailleurs hein, que dans certaines tribus ou sororités? Est-il perceptible au sein des familles et de la société aujourd'hui? Est-ce que nous avons toujours en ligne Docteur Rama Saladieng.
Oui, je suis là.
Oui, voilà.
Oui, je suis là. Avant de répondre à votre question, je voulais juste souligner par rapport à ce que Jean-Eudes a dit, que ce n'est pas que les femmes ont été négligées ou ont été reléguées à une place non importante dans notre culture. Au contraire, elles ont toujours été centrales dans l'organisation sociale, politique, économique de la société africaine. Il se trouve que la manière de raconter l'histoire a été une historiographie mâle, donc faite plus souvent et avant tout par des hommes qui ont mis en avant le rôle joué par d'autres hommes et qui ont peu ou prou effacé le rôle central des femmes. Donc la mémoire politique africaine est une mémoire mâle avec un A accent circonflexe. Donc pour revenir à votre question, le matriarcat. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a vite fait de confondre matriarcat et matrilinéaire et le système d'organisation matrilocale. C'est-à-dire que moi, je suis l'Ebou. L'Ebou, c'est les pêcheurs au Sénégal, la communauté de pêcheurs. De même que la communauté de Serrer, on hérite de par nos mères. C'est le côté de la mère qui est le plus important. Et donc, cela confère des droits et des devoirs et un rôle spécial à jouer, même en termes d'héritage. Donc, comment on accède aux frontières est défini par des règles matrilocales et des règles matrilinéaires. C'est-à-dire, où est-ce que le couple s'installe après le mariage, mais aussi comment la transmission se fait. Est-ce que c'est du côté de la mère ou est-ce que c'est du côté du père? Donc, Cheikh Anta Diop, bien évidemment, on ne peut pas ne pas le citer, a écrit des ouvrages fondamentaux sur le matriarcat au Sénégal. Il y en a d'autres. Mais Oyelonke Oyewumi, qui a parlé de l'invention du genre, pour dire qu'en Afrique, ce n'est pas le genre qui était le système d'organisation principal de notre société, mais c'était plutôt la sénérité. C'est-à-dire qu'on accordait du respect aux gens selon qui est plus âgé que l'autre, ou bien selon à quelle famille on appartient. Donc, il faut juste préciser qu'il y avait d'autres systèmes d'organisation qui existaient et qui existent toujours, mais qui ont tendance à régresser du fait de la progression du patriarcat. Et c'est donc la raison pour laquelle toutes les féministes, peu importe leur couleur idéologique, s'accordent à dire que l'ennemi principal est le patriarcat et qu'il faut donc le combattre par toutes les forces possibles.
Merci docteur Rama Saladieng. Restez avec nous. Écoutons à présent une compatriote à vous. Hein. C'est Séliba, elle est sociologue au Sénégal.
La personnalité qui m'a marquée reste Angélique Savané, Marie-Angélique Savané, une grande féministe qui a été pionnière, l'une des premières féministes au Sénégal et qui a créé, mis en place ce qu'on l'association appelait Yéhoui Yéhoui, conscientiser pour libérer en français. C'est la première d'ailleurs association féministe que le Sénégal a enregistrée à partir de 1984. Donc cette association s'est ouvertement proclamée féministe en identifiant le patriarcat comme système idéologique qui justifie et légitime la subordination des femmes. Et ce mouvement, cette association, fut un mouvement d'influence qui a comme objectif de développer en tout cas une nouvelle conscience féministe au Sénégal, et il y a eu quand même des impacts sur le continent. Maintenant, cette association s'intéressait à la question de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, à l'éradication de la polygamie, à l'égalité en droit, l'avancement en termes de représentation politique, mais surtout la maîtrise des femmes de leur corps, etc. Donc c'était plusieurs questions que l'association a mis dans ses revendications et ça a beaucoup aidé aujourd'hui les acquis que nous avons actuellement. C'est grâce en partie à cette association qui a balisé le terrain. Et là, je peux noter la loi sur la parité que le Sénégal a obtenue en 2010. Les luttes ont démarré depuis dans les années 80.
C'était la sociologue sénégalaise Séliba. Écoutons tout de suite la réflexion d'un auditeur tchadien qui vit au Cameroun, c'est Franklin.
Bonsoir, la VOA Afrique, c'est Benoît du côté Franklin, fils du Tchad depuis le Cameroun. Le panafricanisme est l'héritage et le combat le plus noble pour les Africains sans distinction de genre. Il existe de nombreuses grandes personnalités féministes panafricaines comme Asantewa du Ghana qui a mené la lutte contre la domination coloniale britannique. Le féminisme se distingue des mouvements antérieurs en mettant en lumière les expériences uniques des femmes noires et africaines, ainsi que par leur engagement envers la justice sociale et l'égalité des genres à l'échelle mondiale. Nous saluons aussi notre sœur Nathalie Yam, qui est connue pour son engagement en faveur de l'intégration économique et politique de l'Afrique, ainsi que pour son plaidoyer en faveur des droits des femmes et des minorités en Afrique. Les femmes sont des voix influentes dans les discussions sur les questions de développement, d'égalité des genres et de justice sociale en Afrique. Nos sœurs militent pour la promotion de l'unité continentale et la lutte contre l'exploitation économique et politique de l'Afrique par les puissances étrangères.
Voilà, c'était Franklin, il est tchadien, il vit au Cameroun. Docteur Rama Saladieng, selon vous, est-ce que l'on peut se dire féministe et défendre la polygamie?
Alors, je vais réagir d'abord à ce que Franklin a dit et aussi saluer Célibat, ma sœur Célibat, pour dire qu'elle a parfaitement raison. Le mouvement Yehou Yehoui est un mouvement important qui a publié le journal FIPU, qui est d'ailleurs l'objet de mon chapitre dans l'ouvrage collectif que vous avez mentionné, Gagner le monde sur quelques héritages féministes. Donc, avec d'autres personnalités comme Fatoumata Sow, Fatoumata Zahra Diop, Marie-Angélique Savané a été une figure fondamentale du féminisme sénégalais. Leur collectif, en tout cas, a été plutôt avant-gardiste sur les questions qu'elle soulignait. Et l'une de ces questions est justement la question du féminisme. Et pour elle et pour moi, je ne pense pas qu'il soit conciliable de se penser féministe et d'être pour la polygamie. Cependant, il faut contextualiser d'où la polygamie vient.
Oui, très rapidement, parce qu'on a encore...
je ne vais pas le faire, parce que je ne vais pas faire l'apologie de la polygamie. Seulement, je vais lire rapidement le passage dans mon chapitre que le président Thomas Sankara, qui a reçu le premier prix du mouvement Yehou Yehoui pour la libération de la femme, a dit concernant la polygamie. La polygamie, abat. L'excision, abat. Le mariage forcé, abat. Les maris féodaux, à rééduquer. Les maris pourris, à la poubelle. Pour la révolution des femmes burkinabées, en avant. Pour la solidarité et la libération des femmes africaines, en avant. Merci, camarades. Donc voilà ce que Sankara a dit lorsqu'il a reçu les féministes du collectif Yehou Yehoui du Sénégal.
Merci beaucoup, docteur Rama Saladieng. Écoutons à présent une autre Sénégalaise, c'est la journaliste Oumi Regina Sambou.
Féministe panafricaine qui m'a le plus marquée, je dirais, c'est Madame Marie-Angélique Savané Nessagna, parce que en l'écoutant, on se rend compte qu'elles se sont beaucoup battues pour que notre génération de femmes puisse avoir certains droits. Et ces droits sont aujourd'hui remis en cause et les féministes peinent à se faire entendre. Il y a tellement d'aspects qui sont laissés en rade et aujourd'hui, c'est comme si on faisait en sorte de plus désorganiser les féministes, de faire en sorte qu'elles ne puissent pas avoir une certaine force de proposition pour pouvoir atteindre certains objectifs. On l'a vu au Sénégal, comment les associations féministes se sont battues pour faire du viol, par exemple, un crime, mais comment après, il y a tout un bashing pour dénoncer cet acquis démocratique, cet acquis qui est à préserver, mais non, on a préféré plutôt caricaturer cela, et il y a tellement d'exemples de ce type que nous pouvions donner aujourd'hui, et on a l'impression aussi que les différentes générations de féministes, il n'y a pas eu de transmission de témoins. Et c'est assez difficile, il y a cette mayonnaise qui peine à prendre entre toutes les féministes qui ont pourtant le même combat, qui se battent pour les droits des femmes, pour améliorer la situation des femmes, parce qu'on le sait, surtout sur notre continent, c'est assez délicat, c'est assez compliqué le contexte actuel pour les féministes. On en vient à ce que même féministes soient considérées comme une injure et il y a beaucoup de combats à mener. Il nous faut mener vraiment une réflexion pour déjà rendre plus solides les associations féministes de nos différents pays, mais aussi revoir comment mettre en place une jonction panafricaine pour pouvoir se battre pour les droits des femmes, peu importe où qu'on puisse se trouver sur le continent.
C'était la réflexion de la journaliste sénégalaise Oumi Regina Sambou. Docteur Rama Saladieng, restez avec nous, je vais revenir vers vous tout à l'heure, mais comme vous avez parlé de Thomas Sankara, on va à présent écouter un auditeur qui est à Ouagadougou, c'est Charles Bazema.
Le panafricanisme prôné en Afrique au XXIe siècle n'est pas la même. Donc nous avons lu dans les livres et des hommes tels que Kwame Nkrumah, Patrick Lumumba, Thomas Sankara et autres. Mais la femme dans ce milieu est très importante et il faut le reconnaître. Et je crois que la voix de la femme pas plus loin, à mon avis, que celle de l'homme. C'est vrai, on va me dire que c'est l'homme qui est devant, c'est vrai, mais nous avons vu au Burkina Faso et la chute de Blaise Compaoré a été due à la sortie de certaines femmes. Il y a certaines femmes panafricanistes de l'âme, même dans les musiques, je prends la chanteuse béninoise et Angélique Kidjo, dont j'aime, elle, à mon avis, elle est une panafricaniste 100%. Sa manière de s'habiller, sa manière de parler, tout ça, c'est du panafricanisme.
Docteur Rama Saladieng, vous auriez une réflexion à faire sur ce que vous avez entendu?
Ah oui, je dirais que notre collègue ou ami du Burkina a parfaitement raison, sauf que le manafricanisme dont je parlais s'exprime par le fait que les exemples qu'il donne, c'est Sankara, c'est Lumumba, c'est voilà. Alors que les épouses, Mariam Sankara, la veuve de Patrick Lumumba, lorsqu'on parlait de Marie-Angélique Savanier tout à l'heure, Oumi Regina a bien fait de l'appeler Nessania parce qu'elle était une personnalité politique à part entière avant de se marier à son illustre époux et homme politique. Donc je veux juste dire qu'on a vite fait de souvent reléguer ces femmes-là aux hommes à qui elles choisissent de s'associer maritalement ou autre, plutôt que de les célébrer en tant que personnalité politique à part entière. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et pour ce qu'elle a dit de d'Angélique Kidjo, je suis parfaitement d'accord. Angélique Kidjo, Myriam Makeba, c'était des figures... Ce sont des figures importantes du panafricanisme.
Voilà, je vais être obligée de vous arrêter maintenant parce que je voudrais qu'on écoute Isabelle Kolkolua, la cinéaste guinéenne.
Je peux citer comme femme africaine qui m'a vraiment inspirée, Wangari Maathai, cette Kenyane qui était à la base biologiste et puis vétérinaire et qui plantait des arbres, qui était également une femme politique, qui a pris ses responsabilités dans un monde où les femmes déjà n'avaient vraiment pas droit à la parole et qui n'a pas eu peur, qui a affronté l'hostilité, qui a affronté tous les obstacles. Cette femme m'inspire tous les jours. Chaque fois que je pense à elle, je me dis, si à l'époque où les droits des femmes étaient encore pires, piétinés au pire, et qu'elle a pu s'affirmer, elle a même obtenu un prix Nobel, pourquoi pas toi aujourd'hui? Donc c'est une dame qui m'inspire énormément.
Voilà, je voudrais qu'on enchaîne tout de suite rapidement sur Minou Christel. Elle est chef de communication d'une structure qui s'occupe du droit des femmes.
Une des féministes qui m'a énormément marquée, c'est Madame Huguette Nyakadia-Bokpe, c'est-à-dire que elle fait partie des précurseurs de la lutte contre les violences faites aux femmes au Bénin. Donc, le féminisme contemporain n'est pas si différent du féminisme antérieur parce qu'il garde quand même sa source première de s'indigner, de lutter pour les droits des femmes. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on a des médias, on a en fait les réseaux sociaux, on a une nouvelle forme où on peut mieux s'exprimer par rapport à l'ancienne. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut toucher des femmes dans tous les pays du monde entier, rien qu'en ayant son téléphone portable. Mais aujourd'hui, quand même, il y a une source qui reste, la lutte pour les droits des femmes.
C'était Minou Christel, chef de communication de l'Institut National de la Femme au Bénin, tout de suite grâce à Israël Kangundu. Elle est en RDC.
Je citerai Mam Fatou Niang, une grande figure féministe qui m'a toujours impressionnée ou marquée par son message accentué sur le rôle et l'héritage de féministes africaines dans le mouvement de libération panafricain. Alors pour répondre à la deuxième question, selon moi, le féminisme contemporain se distingue de mouvements antérieurs et précurseurs par son approche intersectionnelle. Contrairement au mouvement antérieur qui s'est concentré sur le droit et les revendications des femmes blanches de la classe moyenne, féministe, le féminisme contemporain a pris en compte les expériences et les luttes de femmes de toutes les races, classes sociales différentes, orientations sexuelles et les identités du genre et aussi des capacités physiques.
Voilà donc pour terminer, docteur Rama Saladieng, malheureusement nous arrivons à terme de cette émission avec vous, c'était Nathalie Barge. Je rappelle que Rama Saladieng est écrivaine, politologue et féministe. On arrive donc au terme de cette émission, je vous souhaite une très bonne continuation à l'écoute de nos programmes.